France Culture.
Les nuits de France Culture.
Une amoureuse à la grande poste du Louvre pousse fébrilement sa lettre dans la boîte. Ses doigts sont tout tremblants, des mains la paume est moite. Elle rougit de hâte et d'angoisse et de trouble. Mais voilà que ma curiosité redouble quand je vois qu'un jeune homme aux cheveux de poète l'attend sur le trottoir, mangeant des cacahuètes, qu'il saisit dans un sac et qu'une à une il ouvre. Elle pousse un long soupir dans le soir. C'est dimanche, un long dimanche d'août, quand la chaleur étanche tient la ville et mon cœur inerte dans sa poigne. Ai-je bien déchiffré cette séquence ombreuse ? L'interprétation, certes, en est douteuse. La jolie rousse au bras de son amant s'éloigne. Jacques Roubaud est un poète à cheval entre plusieurs mondes, plusieurs inspirations. À la fois très novateur dans son approche formelle, comme en témoigne son travail au sein de l'Oulipo, il est également un véritable savant de la poésie, passionné par les formes les plus anciennes, traditionnelles et parfois obscures de cet art des vers. Comme le monde se sonnait, extrait du recueil « La forme d'une ville », Roubaud aime également osciller entre les tons et les matières. On retrouve ici le poète joueur, décrivant avec malice une scène banale du quotidien, dans un sonnet plein d'humour. Mais au sein du même recueil, il se permet aussi des plongées dans une intimité grave et dans des réflexions métaphysiques bien plus sérieuses. C'est de son rapport à la fois érudit et joueur à la tradition qu'il vient parler dans ce numéro d'Agora d'Olivier Germain Thomas, diffusé pour la première fois le 1er février 1982 sur France Culture.
Agora, par Olivier Germain Thomas, qui reçoit aujourd'hui Jacques Roubaud. Bonjour, trois vers de Hugo pour commencer. Pourquoi donc faites-vous des prêtres quand vous en avez parmi vous ? Ces hommes, ce sont les poètes. Voici donc ces trois vers pour servir d'introduction à notre semaine complète qui sera consacrée à la poésie avec, aujourd'hui, un poète parmi les plus riches de la génération actuelle qui s'appelle Jacques Roubaud. Cette comparaison, ou plutôt cette association du prêtre et du poète, est à mon avis une idée très forte qu'Hugo a admirablement illustrée, car effectivement, le prêtre, comme le poète, c'est celui qui apporte dans le monde visible des nouvelles de l'invisible. Et si nous voulons remonter jusqu'à l'étymologie, on se souvient qu'elle vient du pays d'Homère, de la Grèce, « poésis » veut dire « création, action de faire ». Et là, nous ne sommes pas dans une relation d'intermédiaire, mais nous sommes au contraire dans le concret le plus absolu. Et je trouve qu'il est bon qu'à l'origine historique de ce mot poésie, on trouve la réalité la plus immédiate et celle la plus utilitaire. Donc le poète est certainement celui qui se trouve à la fois dans l'utilitaire et en même temps dans cette relation et cette possibilité qu'il a de transmettre des messages de l'invisible. Nous n'avons pas le temps, malheureusement, de nous interroger sur l'état de la poésie dans notre fin de siècle parfois si décadente, mais contrairement à ce que l'on dit un peu partout, à ce que l'on écrit trop souvent et trop vite, je ne crois pas du tout que la poésie soit dans un état si catastrophique. D'abord parce que les poètes pullulent, ça n'est pas forcément un signe de vitalité, car il y en a des bons et des mauvais, mais on considère qu'il y aurait plus de 100 000 personnes en France qui se disent poètes, sans compter tous ceux, et vous en êtes certainement, qui un jour ou l'autre ont écrit quelque part une phrase qui sortait justement de l'ordinaire et qui avait une espèce de poids, même invisible, de poésie. Il n'y a pas que cela. Il y a les publications qui sont multiples, et même si les tirages sont faibles, même dans le cas d'un grand poète comme notre invité d'aujourd'hui, Jacques Roubaud, même si les tirages sont faibles, il y a une nouvelle vitalité de la poésie qui apparaît à travers le dire poétique. Et il est important de constater que dans différents lieux de France et dans l'Europe entière, et même dans le monde entier, les hommes et des femmes se réunissent pour écouter de la poésie, pour vivre cette liturgie. Vous voyez, nous sommes à nouveau dans la religion. Cette liturgie de la parole qu'est la poésie. Et Jacques Roubaud lui-même, à plusieurs reprises dans sa vie, aussi bien en France, à Villeneuve-les-Avignon, que dans certains lieux en Angleterre et dans d'autres lieux, est allé dire sa propre poésie. Qui est Jacques Roubaud? Nous ne le définirons pas, ce serait justement sortir de ce que nous voulons être ici, c'est-à-dire faire vivre. Disons que c'est certainement un des poètes les plus originaux de sa génération, compte tenu de son champ d'investigation qui est si large. Et disons également que, contrairement à d'autres, son expérience n'est pas simplement littéraire, puisqu'il est en même temps mathématicien avec une très vaste culture qui lui permet de lire aussi bien certains textes japonais que des textes de notre grande tradition médiévale, provençale en particulier. Nous allons nous appuyer, Jacques Roubaud, sur votre dernier livre, publié à l'automne, qui s'appelle « D'or », précédé de « Dire la poésie ». Au début, une sorte de contraste entre la volonté que vous avez d'attacher une très grande importance à la place des mots, à la coupe même à l'intérieur d'un même mot, et ce qui sert d'introduction à votre livre, dire la poésie, l'importance que vous attachez au dire, comme si la poésie était avant tout un dire. C'est le cas pour vous?
Bien, je pense qu'il y a pour la poésie deux modes d'existence, qui est à la fois son existence sur la page, pour l'œil, mais l'œil est toujours aussi une oreille. C'est donc un œil-oreille, et je pense que la poésie existe aussi de manière essentielle dans la voix. Et que les mêmes poèmes peuvent être présentés à la fois pour l'œil et pour la voix.
Il y a une relation particulière entre la façon dont vous les organisez dans la page, avec des blancs, et le silence de la voix.
C'est cela.
Automatique.
Elle n'est pas automatique, elle peut être interprétée, mais c'est un peu, disons, la disposition sur la page avec ses blancs, les passages à la ligne, est une sorte de partition. Et ensuite, la voix en est l'exécutant. Ce serait une musique.
Oui, mais enfin, j'ai l'impression que le blanc ne correspond pas forcément comme une note de musique à telle durée de silence.
Non, c'est une indication. Elle n'est pas mécanique, mais elle donne une idée de ici il faut s'arrêter, ici il faut faire une pause, ici il faut laisser entrer un peu de silence dans le texte.
Oui, le silence est très important pour vous.
Oui, je pense que c'est fondamental. Dans le silence, l'écho et la mémoire de ce qui vient d'être dit a le temps de se développer un peu. Puis ensuite repartir sur d'autres mots.
Ah oui, le silence est un peu une seconde vie, ou une vie plus souterraine du mot qui vient d'être dit.
C'est cela.
Alors vous attachez une grande importance dans ce si beau texte, dire la poésie, à tout l'ensemble, tout le contexte du lieu où vous dites.
Oui, je pense que, enfin, en tout cas pour moi, on ne peut pas dire facilement n'importe où, il faut, ni devant des auditoires trop importants par exemple. Donc j'insiste à la fois sur le mode du dire, le mode de la lecture, et sur l'endroit de la réception. Et des auditoires pas très importants, et dans un endroit tel que l'environnement permette d'entendre. Autrement dit, par exemple, ce n'est pas le théâtre, ce n'est pas le plein air, ce n'est pas le stade. C'est quelque chose qui est... pas vraiment, pas la chambre, mais un peu comme la musique de chambre. C'est pas, la voix de poésie, la mienne en tout cas, pour moi, est quelque chose qui s'apparente un peu à l'environnement pour lequel on peut entendre le quatuor.
Oui, et cet environnement peut jouer un certain rôle presque créateur au sein même de votre poésie. Il suffit peut-être qu'une goutte d'eau tombe ou que le vent fasse bouger une feuille de papier pour que le poème lui-même se métamorphose.
C'est cela. Cela introduit par la réaction du lieu, la réaction de ces oreilles étranges qui vous écoutent ou ne vous écoutent pas, ça peut introduire des modifications qui ensuite entrent dans le poème.
Oui.
Et le font varier.
Vous parlez par exemple d'une expérience à Villeneuve-les-Avignon.
C'est cela. Où il y avait une très belle salle avec peu de spectateurs assis sur des coussins, le soleil tout autour mais ne pénétrant pas dans une salle qui était proche de la pénombre avec simplement une sorte de vitre dépolie où l'on voyait les couleurs brouillées à travers. Et je pense qu'à la fois pour celui qui dit et pour ceux qui entendent, c'était un endroit privilégié.
Et vous avez dans vos différentes expériences aussi, vous attachez une grande importance à la goutte d'eau.
Oui, une sorte de métronome presque un peu inégal, avec cette attente suspendue, et qu'est un peu aussi le rythme qui court derrière un poème. C'est une espèce de goutte d'eau des mots qui vont venir, que l'on attend avec un petit peu d'angoisse parfois, mais c'est quelque chose qui joue rythmiquement.
Oui, c'est le temps, mais l'eau est quand même un archétype très profond pour tout notre inconscient. C'est aussi un symbole quand même de pureté et de purification.
Tout à fait.
Oui. Et là, vous l'utilisez de manière consciente, tout à fait.
Consciente.
Oui. Vous pouvez nous lire un passage de Dire la poésie, justement, pour nous introduire à votre conception.
S'établir par la voix dans le silence, le presque silence, est une expérience quasi, pour ainsi dire, opaque. Opaque à soi-même. La voix ne rencontre pas de réponse, ni de l'air, ni de la bande mince brune qui défile en bruissant, en chuintant dans le magnétophone devant soi, ni des têtes qui font face dans une salle, écoutant ou dormant, ou poursuivant quelques voix intérieures parallèles pendant qu'il est dit de la poésie. Pourtant, si j'aborde chaque occasion de dire, sans angoisse, si je m'en souviens sans regret, si je ne regrette aucun de ces remuements monotones de l'air, même s'ils n'aboutissent jamais qu'à leur pure et propre fin, avec l'arrêt physique de la voix, sans exaltation, sans effet, sans écho, sans conviction, c'est que, jamais réellement privée, jamais entièrement publique, la voix disant la poésie manifeste un mode original, particulier, autonome d'existence de la poésie.
Est-ce que, si l'on se réfère à vos derniers termes, vous accepteriez l'idée qu'il y a une relation très intime entre la poésie et le sacré?
Oui, en un sens assez large.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire, c'est quelque chose qui vient de la mémoire ancienne de la poésie. Je pense à la situation origine soit du prêtre, soit du chaman, pour la civilisation indienne. Et là, il y avait un lien de nature. Je ne pense pas que ça soit aussi simple aujourd'hui, dans la mesure où il y a eu une séparation des voix. Et je ne suis pas tout à fait convaincu que la poésie a hérité du sacré.
Alors, le titre de vos poèmes, puisqu'au début, donc, c'était un texte en prose avec ces silences et ces blancs que vous avez manifestés par lecture. Le titre, donc, de votre dernier recueil, c'est D'or. Pourquoi ce titre?
Eh bien, ce sont des poèmes qui sont écrits dans la nuit, un moment où l'on ne dort pas et où il se passe des choses, la nuit, les feuilles, le silence, les gouttes d'eau qui tombent. Et ce sont des poèmes qui sont écrits dans la contemplation de la nuit, dans la proximité précisément de l'endormissement. Donc c'est dormir et ne pas dormir.
C'est ça, c'est au moment de ce moment intermédiaire, si riche effectivement pour la conscience humaine, où on est un peu à la fois dans les deux mondes.
C'est ça.
Oui.
C'est un endroit de frontière.
Oui. D'ailleurs, j'ai fait l'expérience la nuit dernière de les lire au moment justement de cet endormissement pour voir s'ils continueraient de m'habiter. Et l'expérience a été positive, sinon peut-être que je ne vous en parlerai pas. Et je le dis d'autant plus de plaisir que j'ai eu une certaine difficulté à entrer dans votre univers poétique, car vous ne nous facilitez pas l'entrée. Enfin, disons qu'avec Dire la poésie, on entre dans une forme de votre esthétique, mais quand on ouvre certains de vos poèmes, quand on voit ces mots qui sont dispersés comme cela dans la page blanche, on peut craindre qu'il s'agit là d'un exercice artificiel. Et ça n'est justement que par l'expérience de lecture qu'on peut se rendre compte qu'il y a certainement une grande nécessité. Nécessité, mais enfin, construction quand même extrêmement rigoureuse dans D'or.
Il y a une construction. Elle n'est pas entièrement mécanique, mais elle est sous-jacente au développement, aux variations. C'est une sorte de séquence de construction qui guide l'apparition des poèmes et leur variation. Puisqu'il y a peu de mots, qui sont des vers très courts, et des poèmes qui sont souvent le même poème avec peu de variations. Donc c'est quelque chose qui se reprend, qui réapparaît, qui tourne. Et c'est une suite.
C'est ça, c'est une suite pratiquement sans fin, puisque vous conseillez pour la lecture qu'à partir de où on est arrivé jusqu'au bout...
On revient. On revient pas dans en revenant tout à fait au début, ni en relisant dans l'ordre inverse, mais on revient suivant un ordre qui est une variation sur l'ordre précédent. On reprend et cela crée une sorte de spirale qui pourrait être finie, bien entendu.
Oui, c'est-à-dire qu'on ne revient pas tout à fait sur ses pas.
Pas tout à fait.
Mais le fait que l'on emprunte un itinéraire légèrement différent est calculé en fonction de quoi ?
Il est calculé pour donner, pour éveiller certains échos dans la proximité d'un poème avec l'autre. Dans la séquence qui est la première lecture impose un certain ordre, impose une certaine relation entre silence et goutte d'eau, nuit et feuille. Et en revenant dans un ordre un petit peu différent, ces relations sont modifiées. Or, pour moi, la notion de relation entre poèmes, les échos de l'un que l'on entend dans l'autre quand il vient immédiatement après sont quelque chose d'essentiel.
Mais alors là, justement, c'est un poème qu'il faudrait lire d'un seul coup. C'est extrêmement difficile de l'isoler parce qu'on peut avoir tendance de le lire, car ça peut se présenter comme certains petits poèmes japonais haïku, de le lire de manière isolée. Mais en réalité, ça n'a pas vraiment, chaque poème n'a pas vraiment d'existence autonome. Ou il en a quand même malgré une.
Il en a quand même une, c'est-à-dire c'est un peu la goutte d'eau. La goutte d'eau existe toute seule. Elle a son reflet, sa couleur, son moment. Et bien entendu, elle ne vient pas seule. Donc elle existe à la fois en relation avec ce qui suit, ce déroulement dans le temps, et elle existe aussi seule. Et d'ailleurs, vous avez cité l'exemple japonais, qui bien entendu dirige beaucoup l'esthétique des poèmes que j'ai écrits. Le haïku, en fait, n'existe pas seul. Le haïku est un début. Et il y a toujours un écho, il devrait toujours être prolongé.
Ah oui, parce qu'on a l'habitude souvent de le lire de manière isolée.
Il peut être lu de manière isolée, mais il y a implicitement toujours l'idée que cela va se poursuivre en une chaîne.
Ah oui, une sorte de puissance qui s'établit justement dans le blanc qui clôt le haïku. Oui.
Et où quelque chose d'autre va apparaître, une continuation.
Oui, j'ai l'impression que c'est très important pour vous, Jacques Roubaud, cette relation, justement, puisque un des premiers livres de poésie que vous aviez publié, c'est le signe mathématique de relation.
C'est cela.
Que vouliez-vous dire par là ?
Eh bien, la désignation du livre est le signe mathématique, qui est le signe d'appartenance, mais bien entendu, il n'existe pas seul. Il y a quelque chose qui appartient à quelque chose. Et donc, le sens même du titre, c'était cette idée que quelque chose est en relation avec quelque chose.
Oui,
c'est l'appartenance.
C'est ça, c'est la nécessité de l'avant et de l'après.
C'est cela.
Mais néanmoins, pour en revenir à Dore, donc votre dernier recueil, des poèmes peuvent être isolés, malgré tout.
Oui, ils peuvent exister comme moment très court, comme note, comme goutte.
Oui. Vous en choisissez deux ou trois pour que les auditeurs comprennent mieux.
Nuit. Nuit et le noir pousse son ongle. Un silence. Un silence. Les bruits dont la nuit sèche. Fenêtre ouverte. À tête de chien. Du noir derrière, sortant dans le soir.
Oui, c'est une contemplation et c'est une méditation aussi. Il faut vraiment être très recueilli, je crois, pour recevoir vos poèmes.
C'est de la poésie qui naît d'une méditation qui fixe des lieux et des moments dans un certain ordre. C'est quelque chose d'assez ancien, puisque la méditation, la contemplation était ce qui permettait de lutter contre la mélancolie dans la tradition de la Renaissance. Les exercices spirituels de Loyola sont cela, c'est-à-dire une manière, en fixant l'attention par la méditation, d'éviter l'enfer de la mélancolie. Et donc, c'est un mode d'appréhension du monde qui donne ainsi des moments de méditation dans un certain ordre où l'on va contempler la nuit, le temps, les gouttes d'eau, les feuilles, et le transformer en poésie et ainsi peut-être accéder à un certain calme. À la paix, au sommeil.
Oui, c'est le but ? Non, il y a autre chose quand même.
Non, mais c'est ça, disons, pour la vie personnelle, en tout cas, cela joue. Pas pour l'auditoire, bien entendu.
Oui, oui. Et on retrouve là encore les deux lectures. Donc il y a la lecture collective et puis la lecture isolée, où justement la disposition de la page, le rôle des blancs et cet aspect méditation joue plus effectivement que dans une lecture collective. Alors, ce qui est très intéressant dans toute votre œuvre, Jacques Roubaud, c'est que vous êtes moderne, et je crois profondément moderne par la forme, mais en même temps, vous vous inscrivez, et vous l'avez déjà dit, et je voudrais encore vous interroger là-dessus, vous vous inscrivez autour de traditions que vous connaissez et que vous possédez très bien. Quelle est véritablement l'utilité de cette connaissance de toutes ces traditions, que ce soit le rôle que la poésie japonaise a pu jouer sur ses poèmes, ou, on pourra en parler également, le rôle que la poésie médiévale peut jouer sur votre inspiration?
Bien, il s'agit dans les deux cas d'une démarche commune qui vient, disons, d'une certaine difficulté par rapport à la situation actuelle de la poésie, ce qu'on appelait le modernisme, dont l'abandon de la tradition nous a laissé dans un état d'incertitude difficile. Et pour moi, retrouver par le déplacement, soit dans l'espace, soit dans le temps, des traditions solidement établies, une grande poésie ancienne ou lointaine, c'est un moyen de renouer avec la situation de la poésie avant, disons, l'ère moderne.
Oui, c'est un moyen de renouer. J'ai l'impression aussi que ces moyens-là, comme d'ailleurs les formules mathématiques que vous utilisez parfois, sont des cadres dont votre inspiration a besoin.
C'est cela. Si vous... C'est un peu la situation. Le poète qui est dans une tradition, soit à la Renaissance, soit au XIXe siècle, il a le soutien de la poésie traditionnelle, et même de ses formes, le vers français alexandrin, et une sorte de destruction et de disparition au moins intentionnelle de ces formes de poésie laisse dans le vertige d'une impossibilité d'écrire qui existe chez beaucoup de poètes. Et disons, pour moi, c'est un petit peu une sorte de tradition de substitution.
Mais oui, mais justement, le propre des traditions, c'est qu'elles sont considérées comme nécessaires. Or, vous vous forcez en disant, je vais suivre telle formule mathématique, ou bien je vais employer le modèle de Pétrarque ou le modèle de tel haïku. Vous le faites artificiellement, en quelque sorte.
Je le fais artificiellement parce qu'il n'existe plus de tradition collective reconnue par tous. En fait, c'est cela.
Oui, donc vous n'êtes pas du tout dans le même cas que celui qui suit sa propre tradition, parce que sa tradition est une donnée évidente. Pour vous, ce n'est pas une donnée évidente.
C'est parce que je pense que cela n'existe pas. C'est-à-dire il n'y a plus de tradition reconnue par la communauté de ceux qui écrivent et de ceux qui entendent. Et dans cette situation, qui est, je pense, une situation transitoire, c'est depuis la fin du XIXe siècle, sur laquelle probablement on reviendra pour une nouvelle tradition qui sera probablement différente. Mais en tout cas, nous n'en sommes pas là. Et dans l'absence d'une tradition reconnue, donc par la communauté poétique, je cherche, moi, à renouer par mes propres moyens avec des traditions autres.
C'est ça. Et vos moyens, c'est donc soit la culture, soit les formules mathématiques.
C'est cela.
Comment pouvez-vous utiliser les formules mathématiques pour la poésie?
Eh bien, disons, pour simplifier beaucoup, les mathématiques jouent le rôle d'une intervention du nombre. Ce nombre qui intervenait de manière spontanée dans la poésie musicale ou chantée ou dans la poésie traditionnelle, je le fais intervenir par la réflexion de la mathématique actuelle. Et donc, en fait, les mathématiques, c'est les nombres. Et le nombre intervient dans le rythme, et il intervient dans la manière de guider la séquence des mots, pour moi.
C'est ça, mais encore une fois, pas de manière complètement automatique et mécanique.
Non, pas du tout.
Vous le laissez une liberté, c'est ça. Vous mettez donner un cadre, et c'est pour ça que nous rejoignons une de vos études très enrichissantes, qui s'appelle « La vieillesse d'Alexandre ». Dans le fond, l'alexandrin était un cadre, mais un cadre qui pouvait tout à fait se transgresser, puisque la phrase musicale ou poétique pouvait passer d'un vers à l'autre, et il y avait mille possibilités à l'intérieur du cadre.
C'est cela.
Oui. Vous regrettez l'alexandrin ?
Oui et non, parce qu'on ne peut pas, ça n'existe, ce n'est plus comme ça, donc ce n'est plus comme ça. Mais disons, ce que je regrette un peu, c'est une voix qui aurait pu être celle que décrit Mallarmé dans un de ses derniers textes, Crise de verre, où il dit le jeu librement de 12 timbres. Il y a des pages magnifiques sur quelque chose, une sorte de fiction de ce qu'aurait pu être le développement de la métrique, qui n'aurait pas rompu complètement, qui ne serait pas allé vers sa destruction. Et donc, dans ce livre dont vous parlez, La vieillesse d'Alexandre, je défends la thèse que ce qu'on a appelé la libération du vers était à la fois une libération illusoire et un appauvrissement.
Oui, c'est ça. On a l'impression que vous faites partie de la génération qui a suivi celle de l'enivrement de la liberté. Il y a un enivrement de la liberté, plus de règles, parfait, on va pouvoir tout faire. Et vous, vous vous placez lucidement devant non, on ne peut pas tout faire, on a besoin d'une contrainte.
C'est cela, oui.
Je schématise pas trop votre pensée.
Non.
Bon. Alors voilà, donc un grand poète à découvrir. Je dis à découvrir parce que je sais que les tirages de ses ouvrages ne sont pas aussi importants qu'ils le mériteraient. Publié chez Gallimard, d'or. Précédé de Dire la poésie, et les textes que Jacques Roubaud a lui-même lus sont tirés de ce même recueil qui comporte donc ces deux éléments, plus d'ailleurs des poésies inspirées de Pétrarque et de la tradition indienne. Et également de Jacques Roubaud, La vieillesse d'Alexandre, essai sur quelques états récents du vers français, Vieillesse d'Alexandre qui est peut-être inconsciemment le souhait d'une nouvelle jeunesse d'Alexandre.
Oh oui.
Le reste de l'œuvre de Jacques Roubaud, notamment ce signe d'appartenance que j'appellerai Epsilon, parce que sinon c'est assez difficile, est publié également aux éditions Gallimard. Mono no Aware, aux éditions Gallimard. Renga, qui est un poème très intéressant parce qu'il a été fait en collaboration avec trois autres poètes, Octavio Paz, Eduardo Sanguinetti et Charles Tomlinson. 31 au cube, autobiographie chapitre 10, Graal fiction, et ainsi que des pièces de théâtre en collaboration avec Florence Delay. Tout cela donc chez Gallimard, avec uniquement La vieillesse d'Alexandre, publiée chez François Maspero. Nous continuerons notre semaine de la poésie, demain avec la poésie polonaise de Konstantin Jeleński. Mercredi 3, André Chédid, une femme poète d'origine égyptienne. Jeudi 4, une jeune poète belge à découvrir, Claire Lejeune. Et vendredi 5, un grand poète français, Jean Grosjean. Au revoir et à demain, j'espère.
C'était un numéro d'Agora avec Jacques Roubaud au micro d'Olivier Germain Thomas, diffusé pour la première fois le 1er février 1982 sur France Culture.